Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour vous présenter notre podcast Escale. Aujourd'hui, avec l'artiste canadien Webster, nous allons nous pencher sur les incidents croissants de racisme et de discrimination en cette période de Covid-19. Nous examinerons aussi avec Webster la présence afro-descendante et l'esclavage au Canada, sujet qui lui tiennent particulièrement à cœur.
La colère de milliers d'Africains confinés en Chine, chassés de leur logement et des hôtels, ils dénoncent des actes xénophobes.
Des bagarres qui éclatent à l'école, des personnes injuriées dans le bus et dont les passagers s'éloignent, une caissière par laquelle les clients refusent d'être servis. Autant d'actes de racisme ordinaire subis par des personnes d'origine asiatique en France.
C'est un mal cruel qui s'en prend aux plus faibles, aux plus âgés, aux plus pauvres de la société, mais aussi aux minorités. Sur les civières, aux soins intensifs, beaucoup d'Afro-Américains victimes du coronavirus, dans les morgues aussi.
La crise de la COVID-19 a révélé bien des faiblesses de nos sociétés. En particulier, elle a fait ressortir des accès de violence sous une forme exacerbée ou d'une manière plus diffuse. De graves incidents ont ainsi tristement illustré la persistance d'un racisme omniprésent, notamment à l'encontre des populations d'ascendance africaine. Un webinaire de l'UNESCO s'est penché sur le lien entre l'histoire et la situation présente pour expliquer, mais aussi combattre le racisme et les ségrégations dont peuvent encore souffrir les populations d'origine africaine. Ali Ndiaye, alias Webster, artiste hip-hop et conférencier canadien, participait au webinaire de l'UNESCO. L'occasion d'aller à sa rencontre et de dialoguer sur la façon dont la mémoire du passé ne peut qu'aider à une meilleure cohésion sociale.
En fait, le webinaire portait autour de peut-être un état des lieux et aussi essayer de trouver des solutions. Pour ma part, mon approche, c'était surtout une approche historique. J'avais envie de revenir sur la naissance de la notion de race, qui est une notion qui est relativement récente dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est à partir des années 1700 qu'on commence à catégoriser et hiérarchiser les personnes selon la couleur de leur peau. Donc, j'avais envie de revenir sur la naissance de cette notion et des maladies qui étaient associées à cette notion-là et comment on pouvait faire le lien avec justement le racisme systémique issu de l'esclavage et la question de la COVID-19 aujourd'hui. En termes de solutions, les gens ont beaucoup parlé de connaissances, c'est-à-dire de revenir vers une meilleure connaissance de l'histoire, une meilleure connaissance du rôle de l'esclavage dans le façonnement de notre présent. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue économique global, ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue social est en lien avec l'esclavage. La prééminence de l'Europe dans le monde et du monde occidental est ancrée dans cette pratique de l'esclavage. Et donc, les gens ont trouvé important de remettre au clair cette question-là et de pouvoir analyser ce qui se passe dans notre société à la lumière de ces disparités. On a parlé aussi d'une meilleure manière de transmettre les informations afin que les gens puissent être touchés par ces informations-là et de pouvoir mieux comprendre le fait que si plusieurs personnes afro-descendantes ou encore des personnes aussi issues des premiers peuples, des Premières Nations, des Amériques, sont atteintes de cette maladie en plus grand nombre, ce n'est pas par une différence biologique, mais par une disparité sociale créée par cette perception d'une différence biologique. Qu'est-ce l'idée de race? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence biologique, mais bien parce que cette idée de race a créé des conditions sociales qui vont avoir un impact sur la biologie.
Donc, comment peut-on trouver une solution? Est-ce que justement, c'est par, en essayant d'informer les gens, de leur faire comprendre que ce n'est pas justement une question biologique, mais que c'est cette disparité sociale qui est la base et la raison pour laquelle les personnes de descendance africaine sont plus affectées par le COVID?
Oui, c'est beaucoup une question d'information, d'informer la population et d'informer le corps médical aussi. Parce qu'il y a eu une étude en 2012 aux États-Unis où se sont rendus compte qu'il y a bien des gens dans le corps médical qui croyaient que les personnes afro-descendantes percevaient moins les douleurs que les personnes euro-descendantes. Donc, que les Noirs souffraient moins que les Blancs. Donc, on leur donnait moins d'antidouleurs. Ou quand on en prescrivait, c'était à plus petite dose. Et cette étude a été faite au Canada aussi, la même année, avec les mêmes résultats. Et ça, ce sont des perceptions qui viennent de l'esclavage, qui viennent de cette fausse notion de race-là, et je dirais de divergence biologique, si on veut. Et donc, on parle d'éducation pour tout le monde et de meilleur accès à l'information, de faciliter l'information et aussi peut-être sortir du cadre eurocentré de notre manière de percevoir les études d'histoire aussi, c'est-à-dire que l'Afrique puisse se réapproprier son identité et son espace dans la longue marche historique mondiale. Parce que une des répercussions de l'esclavage, ça a été que l'Afrique se fasse enlever son identité, se fasse enlever son droit à sa présence historique. Et donc, ces informations-là vont permettre de remettre sur un pied l'égalité historique et ainsi pouvoir, espérons-le, nuire à cette idée d'infériorité ou de supériorité des races, ou d'infériorité ou supériorité civilisationnelle, parce que les deux marchent main dans la main.
Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoilez des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer? Pour vous dire comment c'est, d'abord faut nuancer l'histoire.
Et donc, vous personnellement, vous êtes d'un père sénégalais et d'une mère québécoise. Mais un des thèmes importants pour vous est l'histoire justement de la présence afro-descendance et l'esclavage au Québec et au Canada. Donc, pourquoi c'est si important pour vous?
Mais parce que c'est une histoire qui a été complètement oubliée. Vous arrêtez les gens dans la rue, vous leur demandez est-ce qu'il y a une présence africaine d'ici depuis longtemps, et les gens vont penser à la deuxième moitié du 20e siècle. Pourtant, il y a une présence africaine qui date du début de la colonie française, depuis 1629. Donc, pour moi, il est important de parler de cette histoire-là pour qu'on puisse comprendre que le Québec et le Canada ont fait partie de cette histoire-là, ont fait partie de ce réseau à travers le commerce triangulaire et qui a profité de ces réseaux-là aussi. Et donc, il y a ce lien-là important et surtout de faire comprendre que notre histoire ici au Québec et au Canada n'est pas une histoire homogène, c'est-à-dire qu'il y a une présence afro-descendante ici depuis des siècles. Et ça permet de remettre en question cette histoire et ça permet de remettre en question cette identité qui est trop souvent perçue comme étant homogène. Et donc, les premiers historiens ici, dans les années 1800, parlaient d'une pureté de la race canadienne-française. Et par la suite, plusieurs historiens se sont basés sur ces histoires-là pour se faire une image complètement blanche de notre histoire, de notre identité. Et donc, pour moi, j'espère, en faisant cette histoire-là, en partageant ces informations, que les gens puissent revoir notre identité, revoir leur rapport avec la racisation au Québec et au Canada.
Et comment c'est reçu, justement, votre histoire, ce que vous avez mis sur place? Les gens comprennent?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fascinés, qui trouvent cette histoire extrêmement intéressante, qui sont contents de ce travail. Et il y a d'autres gens qui n'aiment pas ces démarches parce qu'ils trouvent que c'est un épisode anecdotique qui ne vaut pas la peine d'être raconté. Ils trouvent que ça ternit l'image qu'on se fait de notre histoire. Et ils s'imaginent que mon objectif, c'est de culpabiliser. Et donc, pour ma part, la culpabilisation ne sert à rien. Il faut plus penser en termes de responsabilité. C'est-à-dire que les gens qui vivent aujourd'hui ont une responsabilité quant au système qui a été érigé sur le dos de l'esclavage. Et donc, on a une responsabilité commune à renverser ces temps-là. Et je pense entre autres aux Premières Nations ici, qui plusieurs réserves sont dans des situations sociales, médicales, économiques très précaires. Et donc, on doit travailler pour les personnes issues des Premières Nations, les personnes racisées aussi, pour qu'on puisse arriver vers plus d'équité, mais aussi plus de justice.
I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind.
Peut-être pour arriver à aller de l'avant, c'est peut-être justement essayer de comprendre tout ce qui est la descendance africaine et aussi essayer d'aller de l'avant avec tout ce qui est stigmatisation et racisme qui existe partout dans le monde, n'est-ce pas?
Oui, parce que le racisme est une plaie qui existe dans toute société. Et ici, au Québec et au Canada aussi d'ailleurs, c'est une chose dont on a de la difficulté à parler sur la place publique. C'est-à-dire qu'on est capable de parler d'homophobie, on est capable de parler de sexisme aussi, Mais dès qu'on parle de racisme, tout d'un coup, les gens ont de la difficulté à en parler. On dit souvent, ah, si on parle de racisme, vous dites qu'on est raciste, mais la question n'est pas là. Et donc, parler de racisme systémique, parler du manque de représentativité, que ce soit dans les médias, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu des finances. Mais si on n'est pas capable d'en parler, comment est-ce qu'on peut avancer en tant que société? Et pour moi, c'est un signe de maturité pour une société, d'être capable de s'asseoir et de regarder ses torts sans comprendre que ce ne sont pas ces torts qui définissent la société.
Et peut-être justement, la COVID est un moment vraiment important pour réévaluer toute cette situation, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui. Je crois que c'est un moment pour évaluer bien des choses, soit d'un point de vue environnemental, que ce soit du point de vue des relations interpersonnelles, mais aussi des relations sociales. Et donc, je crois que c'est un tournant qu'on doit savoir saisir en tant que société et surtout en tant que terrien.
400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire, il faut se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 10 minutes, l'ignorance, 10 minutes. 400 ans d'histoire, 6 millions
donc,
de raisons.
Donc, vous êtes
nous faire,
bien sûr
croire,
un artiste hip-hop. Donc, est-ce que vous utilisez justement votre don, disons, pour informer les gens au sujet de cet héritage de l'esclavage? Comment vous utilisez votre profession dans cette situation?
En fait, ça a été vraiment ma première initiative dans la diffusion de ces informations et à travers la musique. Parce que à l'époque, dans ma mi-vingtaine, c'était le seul médium que je possédais pour pouvoir échanger, pour pouvoir transmettre des informations. Et donc, j'ai commencé par rapper à propos de cette information-là, à propos de l'esclavage, de la présence afrodescendante ici, avant même de donner des conférences, avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, mais de fil en aiguille, j'ai développé d'autres types de projets afin de pouvoir toucher toujours plus de gens. Parce que à travers le rap, c'était une chose, mais je ne pouvais toucher souvent que les gens issus de la communauté hip-hop. Ce sont des projets qui doivent s'adresser à l'ensemble de la société. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc, mes conférences sont devenues des visites guidées. Donc, j'ai monté une visite guidée de la ville de Québec qui s'appelle les visites de Québec History X. Le X étant le facteur reconnu en mathématiques. Et donc, sont des visites de 2 heures où je parle de cette histoire. On revoit en fait l'histoire du Québec et du Canada, mais à travers la lentille de l'esclavage et de la présence afrodescendante. Il est toujours important de nommer les deux. Je parle d'esclavage et d'afrodescendance, parce que l'esclavage ici n'était pas seulement un esclavage des personnes noires, mais c'était aussi un esclavage des personnes autochtones. Il y a eu beaucoup d'esclaves autochtones ici, c'est pour ça qu'il est important d'en parler sans les oublier. Les présences noires, parce que toute personne noire n'était pas automatiquement esclave. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de personnes libres aussi après l'esclavage, mais aussi pendant l'esclavage, et il est important de ne pas seulement associer présence noire dans le passé et esclavage. Ce n'est pas l'esclavage qui définit l'histoire africaine et de la diaspora africaine. Et donc, j'ai mis sur pied les visites guidées et l'année passée, j'ai publié un livre pour enfants à propos du premier esclave arrivé ici en 1629 qui s'appelait Olivier le Jeune, qui venait de Madagascar. Et donc, c'était une manière de transmettre ces informations, mais à un public plus jeune qui pourra vieillir en sachant qu'il y a une présence africaine ici qui date depuis plusieurs siècles. Puis l'année passée aussi, j'étais commissaire d'une exposition au Musée des Beaux-Arts du Québec à propos des esclaves en fuite, afin de montrer le processus de résistance des esclaves ici. Cette exposition s'appelait « Fugitif ».
Et donc, Webster, comment voyez-vous l'après-COVID, justement, pour tout ce qui est la traite transatlantique des esclaves et de son héritage?
Honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais voir positivement, mais je suis très conscient que les gens n'ont pas nécessairement le réflexe d'associer ces deux événements. Mais souvent, les gens ne réalisent pas que cette traite a un impact sur notre présent, a un impact très marqué sur ce qui se passe aujourd'hui, même avec la COVID-19. Donc, la vérité, je ne veux pas être pessimiste. Disons, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais je reste optimiste.
Et c'est avec l'optimisme de Webster que se termine cette édition d'Escale consacrée au racisme, aux inégalités et à la vulnérabilité que connaissent les personnes d'origine africaine dans le monde entier. Un magazine qui a aussi permis de mettre l'accent sur la traite transatlantique des esclaves et son héritage racial pour pouvoir aller de l'avant. Tous nos programmes d'ONU Info sont à retrouver sur Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau podcast Escale.